Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du FaberCast. Je suis votre animateur FaberGlass et puis cette semaine, on a un épisode que je suis très excité de vous présenter parce que j'ai fait des entrevues avec deux combattants que j'avais jamais reçus auparavant, que j'avais très hâte de parler à ces deux combattants-là, je dois vous l'avouer. Et puis c'est fait, je vous présente ça aujourd'hui. Le premier segment du podcast a lieu en direct en compagnie d'Elias Theodore Rule. Il va se battre à l'UFC Ottawa, c'est dans le co-main event de la soirée, un très gros combat pour lui face à Derek Brunson. On parle de ça, mais on parle de plein d'autres choses aussi parce que Elias a toujours mille et un projets, est toujours impliqué dans mille et une choses. C'est quelqu'un qui se garde très occupé en dehors de la cage. On parle évidemment de cannabis, c'est un sujet sur lequel il est très vocal, le cannabis médical. Il tente d'obtenir une exemption thérapeutique pour cette substance-là, puisque c'est pas encore permis, même si ça a été légalisé au Canada en termes de règles MMA, ce n'est pas encore permis, même si des médicaments comme les painkillers sont permis à certains endroits. Donc, tente de nous donner plus d'informations par rapport à ça et de comment on dit, raise awareness, ça fait comme trois fois que je reprends l'intro parce que je sais pas comment dire raise awareness en français. Donc je le dis juste en anglais, je m'en sac. Il veut raise awareness concernant cette cause-là. Et puis il nous en parle, il nous parle aussi des autres choses dans lesquelles il est impliqué parce que l'AIS est toujours impliqué dans mille une choses, je viens de le dire. Du fait même, on a Julien Leblanc sur le podcast, c'est une portion en anglais. Ça se peut que je re-reçoive Julien, mais il nous parle un peu de son combat contre Adam Hunter. C'est bref, straight to the point, on veut que Julien très pour ce combat-là, donc on le reçoit un peu. Ça se peut que je le reçoive encore plus tard, plus proche de son combat, parce que je pense que c'est un combat qu'on mériterait de passer peut-être un peu plus de temps dessus. Anyway, Julien, je l'ai reçu comme 5000 fois sur le podcast déjà depuis, donc c'est pas quelqu'un que j'ai de la difficulté à obtenir, là, entre vous et moi, c'est un de mes bons amis. Et puis ça se peut qu'on le revoie, mais il est là avec l'entrevue d'Elias, donc Julien Leblanc sur le podcast aussi cette semaine. Ensuite, je me prends un petit segment à moi, pour parler de la signature UFC de Charles Jourdain. C'est quelque chose qu'on avait excessivement hâte qui arrive, puis c'est un peu arrivé out of nowhere. Je pense qu'on s'en attendait pas totalement, puis boum, c'est arrivé, puis je réagis à ça. J'ai pas fait de vidéo séparée, puis je me suis dit, ça pourrait être un très bon sujet de discussion pour le podcast. Donc je fais ça, et je vous fais mes prédictions pour le deuxième tour des séries éliminatoires, plus que mes prédictions sur mes tours ont été absolument horribles, bien que les deux seules séries que j'ai réussi à bien prédire sont les deux équipes que j'ai placées en finale de la Coupe Stanley, c'est-à-dire Boston et San Jose. Donc, j'ai quasiment tout raté mes prédictions au premier round, mais mes prédictions des deux équipes finalistes sont encore intactes. Let's go les Sharks. Je dirais jamais let's go les Bruins. Je m'abaisserai pas à ce point-là, mais bref. Tout ça pour dire que ça va nous mener au dernier segment du podcast, qui est une entrevue avec Ayman Zahabi, qui lui aussi va se battre à l'UFC Ottawa. Lui, c'est après une longue absence de la cage, il a subi un sévère KO à son dernier combat UFC, c'est-à-dire contre Ricardo Ramos. A pris une bonne pause, la pause nécessaire, mais de retour dans le gym depuis. Et est affamé de retourner dans la cage, montrer aux gens ce qu'il est capable de faire, tenter de finir un combat lui aussi, et de prouver qu'il est un sérieux contender dans la division des 135 livres de l'UFC. Donc on parle de ça avec lui, puis on a aussi peut-être un peu d'inside information sur quelques prospects du Tristar dans l'UFC qu'on attend d'avoir dans les plus hauts sommets de leur division. Si c'est pas cette année, c'est au début de l'autre année, notamment Arnold Allen, Mirsad Bektic et Nasrat Akparas, Mansour Barnaoui aussi. Donc on parle aussi même du combat Rory contre John Fitch. Donc regardez, j'ai pas mal parlé longtemps pour cette intro-là, là, on s'en va directement au podcast. Bonne écoute tout le monde et puis on se voit dans le milieu pour mon petit segment puis on s'en parle à la fin. Salut tout le monde, comment ça va? Je suis vraiment très enchanté cette semaine parce que j'ai un invité que ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de parler avec, puis on a plusieurs choses à lui parler parce que je pense que dans les combattants actifs, c'est un gars qu'il y a toujours plein d'affaires qui se passent par rapport à lui, pour avoir la chance de parler de tout ça. And it's my man Elias Theodore, how you doing, man?
Fantastic. Good. Yeah. Thanks to be here.
Yeah, what I was saying is that amongst all the fighters, you're probably the one that has the most thing going on at all times.
Yeah.
So I was saying that we'll be here to talk about, yes, your fight against Derek Brunson, because that's a big one. Of course, that's a big opportunity to get, like, finally into the top 10. And it's going to be a good fight. It's the co-main event of the UFC Ottawa. Everybody's looking forward to it. But I want to talk about other things too, like ring boyism, maybe?
Yes, yeah.
And another thing that I think we can start with, since people that have been listening to me, they know that that's the exact subject I want to talk to you about. And I even got a prop, my man. So let's do this.
Tre. C'est magnifique.
Oh, yeah. Let's talk about some weed, because you're the weed bae.
Well, yes, we'd be indeed. what's it called? Trademark included.
Yeah, man, I just saw the website the other day. What was that exactly?
Well, it's obviously a spin in some ways in regards to, for those that know about Salt Bae.
Yeah.
He's a, you know, an influential butcher and a Renaissance man in his own right, who, you know, was a sensation online and became viral and then made a career out of it and, you know, was able to use that as a platform to showcase his restaurants and kind of, you know, be a cultural... a cultural presence. Everyone knows what this means, right?
Yeah, exactly.
Well, I want to do the same thing with cannabis. So I thought there was an opportunity there. And, you know, it's building in regards to what I'm doing, obviously, on the recreational side with something like Weed Bae, trademark included. But also what I'm also doing in on the medical side in regards to my own pursuit as an athlete, fighting for a therapeutic exemption. It's all about fighting the stigma that currently resides in regards to cannabis.
Yeah, exactly, because just, like, to be clear, you can't smoke and just go fight because your levels would be too high and then they'd kind of pop you for weed. Like.
Yes, unfortunately right now cannabis finds itself on the prohibited list, which means it's essentially looked at as, you know, a performance-enhancing drug, which I'm, you know, I and many others disagree in the capacity that cannabis isn't a performance-enhancing drug. If anything... it should be, and what I'm fighting for is medical quality in the capacity of, in the capacity that other people can use different types of pain management, like, you know, first line medicines, like, something like, you know, whether it's an opioid or a painkiller, you know, something specifically, for instance, people are allowed to use something like Vicodin. And that's not an issue. And if anyone that knows anything about medicine, Vicodin is a very serious prescription drug. Whereas cannabis, especially in Canada, it's a little different in the capacity of how it's looked at comparative to the U.S. because the U.S. looks at it as a Schedule One drug, which means it doesn't have any medical property. Where obviously in Canada, you know, the end of prohibition and the fact that it's a part of our it's a part of our medical system in so that it is a you know, it's a medicine. It's looked at as a medicine here where it's not in the U.S. And, you know, I'm a huge believer in some parts of what USADA represents and, you know, a free, clean sport. But I think this is an outdated process that needs to be changed. And I'm looking to, you know, use my platform to fight for not only myself, but all other athletes.
Yeah, I think that's really cool, man, because amongst fighters, I know many fighters in Quebec here that with the, la régie, that is called la commission, they're like really, really strict with like weed rules. We don't even know if they test for steroids first, but they test for weed and they pop people for weed and they take all fight purses from away from people for weed as fines. So most fighters that smoke, I know many fighters that smoke like recreationally, they smoke for medication that because it helps, it really helps. But most people, they're just afraid to talk about it because they say, oh, if I speak about it on an interview, they, oh, yeah, I like to smoke a joint. Then they'll test me. Then I may get popped because everybody knows that, like, one of the worst disadvantages of cannabis, that it lasts in your blood, like, forever.
Yeah, it's attached to your fat cells. The cannabinoids attach that way. And more specifically, the way the testing is, it's actually skewed against female athletes because, again, their body composition in regards to their fat-soluble components are actually higher than men, so it actually stays in their system. And also heavier weights. So the heavier you are, the longer it'll stay in your system. So it's not an even playing field in that capacity as well.
Yeah, exactly. My good friend, Adam Dajka, I think you know his part. Man, it took, I think, 81 days for him to get completely clean. Because he had to, because he's the one guy who got popped for weed. Mm-hmm. So he had to get clean because they were testing him, and it took 81 days without smoking.
Yeah.
To get, like, completely clean and not to test positive anymore.
Yeah, again,
and, like, he had to get pre-approved for the fight, like, because they wouldn't license him either way. So it's cool that there's somebody with just, like, willing to talk about it openly and raise awareness because, as you said, it helps people. It really helps. And you can go and, like, resort to painkillers and stuff, but using weed in many ways that it can be used today, being just CBD or being just like small doses, or like, I know there's oil vaporizers, everything, and it can really help people. And it's not really attached to the stigma that there was back then, that like, oh, the bums smoke weed and not every in Canada especially, people know that there's like real benefits and there's been like real medically proven research has done that favor cannabis in like many, many ways, according to health in general.
Yeah, well, it's the capacity that, out of the darkness and into the light, there is still a lot more research that needs to be done. And part of it is playing catch up because it's been looked at in such a negative look for so long. And, you know, the U.S. is in many ways one of the largest, if not the largest, medical purchasers, whether it's medicine, whether it's research. And, you know, it was frowned upon for such a long time, or even outright banned, to actually even look at cannabis in that capacity. So, again, I'm fighting for not only myself, but all other athletes moving forward.
Yeah, and will you get it finally? Do you know? Are there developments?
I won't have it in time for my fight. Unfortunately, it seems that there has been a little bit of politics involved. So what ends up happening is, long story short, it's just taking a lot longer. It's a bureaucracy, right? Like, I just have to keep on pushing through. And as with anything, I've been in the UFC now for 5 years, and here I am fighting on the biggest stage that I have in the main event, the co-main event rather. I'm going to keep pushing forward, not only with my fight, but also with my fight inside the cage and out.
Yeah, man, I hope you'll keep us updated, because really that's something that's important to me. I'm a big believer in cannabis. I've been using cannabis since like 10 years now, and like I always been the kind of people that just wanted to get to the positive of that stuff, because I know it's been looked upon, but it's changing, and I think it's really important that in MMA, but like in every sport and every sphere of the society, people just see it as what it is and just use the benefits and just stop looking at it as like something that's like frowned upon. And
yeah, well, again, it's an outdated mindset, and also the fact that, again, I'm not self-medicating. It's my doctor that has prescribed this. I have bilateral neuropathic pain. It's basically nerve damage in my upper extremities, and cannabis is the best medicine for me as prescribed as my doctor. It's not only the medicines themselves, it's also the side effects that, that are detrimental to my ability as a fighter. It puts me at a competitive disadvantage. Something like Lyrica that I was put on, a week or two in, I gained 10, 15 pounds. And not only did I gain the weight, but I was also bloated and inflammation and, upset stomach. And nothing worse than having an upset stomach and getting punched and kicked in the stomach, right? So it's one of those things where, it's a competitive disadvantage that I find myself in, but I'm going to push through, and I will be successful in this.
Yeah, Ben, I really hope so, because even just other ways to treat things like this often involves like pills, straight up pills and medication, which is like chemically done.
Yep.
And weed fucking grows in nature, man. Like,
yeah.
I know it's enhanced and shit, but like, especially in Canada, now that it's legal, it's supervised by the government, like
Health Canada specifically.
Yeah, it's exactly. So we know like every percentages of everything that's in the plant. So it's not like street drugs that have been grown in where else.
Yeah, well,
it's good. It comes from nature. So man, it's just gotta change someday. And I'm really glad that you're in the forefront of that.
Thank you so much. Again, there are obviously a lot of other people that have done this before me, and whether it's someone like Matt Riddle or other athletes that have been, unfortunately, flagged for the capacity of, medicating. It's just one of those things. It's an outdated mindset that I almost feel obligated to fight for. And another thing to stress is the fact that, again, it's not. Don't take my word for it. Take my doctor's word for it, in the capacity that he believes that it's the best thing for me. And also, I have a medical cannabis provider in regards to Solus Health and Solus Health Network that empower me both as a patient and an athlete. So, it's one of those things where then I'm going to fight inside the cage and out.
Yeah, now let's talk about that fight, because that's something that we need to talk about too. It's an awesome fight, really, really big test for you. The kind of fight that will get you into the top 10, and you'll be fighting a guy that has been there for maybe even longer than you.
Yep. Yep, he's been there since about 2012, where I've been in there since 2014.
Yeah, so a veteran, a guy that has fought the best. He's fought the champ. He's fought like the second guy in the division. Mm-hmm. He's fought everybody. So how does that
like feel to finally be in that spot? Like after 5 years, you said you've been working your way up, like it's kind of a slow grind, man. You've been getting step ups, but like now is the time that you get that big fight, that name guy that people know. So how does it feel? Like a couple, like 1 week and a half out of
it? Yeah. Well, it's a week Saturday, right? So no, I feel good. You know, I think it was the best route in the sense that I didn't start martial arts like he did in wrestling in high school. He's a D1 or D2 wrestler. So, you know, he has even more experience than I do. And so is most of the fighters that I've been in. I'm 30 now and I've been training in it. I trained in my first year in martial arts in any capacity. No wrestling, no karate, no boxing before that when I was 21. So I've been in the UFC for 5 years and only 4 years of martial arts before that. So it's been a little bit of a learning curve and, you know, in the capacity of, you know, I'm growing as a martial artist. Obviously, I'm trying to learn my funky style. I think one of my positives that I've been able to use from that, you know, funky style is the fact that I'm a blank canvas. So I'm able to kind of adapt and grow with the coaches around me. And kind of put it all together, and I feel better and better every single time. My last fight was a tough one. You know, my opponent hit me hard a couple times, but it's experiences like that where I can look back and say, oh, not only did I get hit in the second hard in my last fight, but I came back and actually hit him more in the first, more in the third round than I did in the first and second. So it's not only to get hurt and have adversity, but to come back even stronger. It adds more confidence in my ability, and also the fact that someone like Derek Brunson, who, you know, it's no secret what he is. He's someone that needs to knock someone out in the first round, right? Like he hasn't been in a decision since 2000. He hasn't won a decision since 2013 against Chris Leben. So the longer it goes, the better it is for my night. He was along with the wrestling, he was also a sprinter in high school and college. So I'm going to show them the difference between a sprint and a marathon.
Yeah, that shows, man. I didn't know that, but that shows.
Yeah, I'm one to very psychoanalyze and also what's called dig deep into what my opponent is. I know everything about Derek Brunson. I know everything about my past opponents. And I know everything about how to get a win.
Yeah, and Derek Brunson, like, he's a name. He's a fighter that everybody knows. But I feel that when you've seen, like, two or three Derek Brunson fights, you kind of seen Derek Brunson.
The mom, yeah.
Yeah, you know it. That guy comes in crazy or is really tentative, really conservative. He's like one of two, but lately he's been crazier than ever. But like before, like that Leben fight was kind of like, I don't really know how to describe that fight. But it was slow. It wasn't like that Derek Brunson pace that we see. But like he's the guy that can take down Yoel Romero and look that good
until the last minute.
Until the last, and then like just everything falls apart and everything crumbles. So yeah, like you've been saying, it's probably gonna be a crazy beginning of the fight, but if you can weather that storm, it may be looking real good for you. And we've seen you weather that storm, because like you ate knees from Thiago Santos for how many minutes, and you never fell, and that guy literally killed everybody.
Yeah, exactly. The Thiago Santos, even though I it was my first loss, it's one of my most important fights and also proudest moments in the cage. I'm one of, if not like the only person that's gone to a decision with them, win or lose.
Yeah, and I think,
and I'll be definitely cheering for him against John Jones, because if he beats John Jones and I went to decision with him, holy googly moogly.
Yeah, now that's good for you. I still love John Jones so much.
For sure.
Though that guy breaks our heart every time he fights. But
may we.
Damn. what I was about to say. Damn it. You made me forget, but I'll probably come back around to it. But, oh shit, no, man. You just made me forget my...
It happens.
For sure, but... it was good, though. That's why I didn't want to
lose it. But we can talk about it again.
Got it back. After that Thiago Santos fight, I think that's really a fight that defined you as like a real potential top fighter in the UFC. Because I remember before, people that didn't know you, they were like, oh, look at that guy with the long hair. Mm-hmm. He's the pretty boy. He says that he doesn't take damage in his fight, and he's he can be cocky if he wants to, but like, I think everybody was kind of looking to the day that you're going to get tested, that you're going to get hit, that maybe you wouldn't have that much of a pretty face going out that fight, but you still, like you said, went out that fight, like, mm-hmm. on your feet.
Yeah, and even with the stitches, I have about 100 stitches in my face collectively, not just from the Thiago fight, but from fights altogether and whatnot. And my chick still digs my scars.
No, for sure. You still look good, man. You still and you're good, like, to develop a brand, man. As soon as you came into the UFC, you already had a brand, and you developed it. And man, you're, like I said, you always have many things going on. Mm-hmm. And I think it's clear your ability to like find like a cause, like cannabis. Like, I'll be the first guy to be a ring boy and just run with it and make it a thing, make people want to talk about it, mm-hmm. and make people want to say, like, even if it's that, oh man, I want to watch that shit, I want to see
a boost.
Or even if it's like, it's people that absolutely love it, it makes people want a thing, want to talk about it. And that, I think that's one thing that you really like put the finger right on. And
thanks, man. Well, it's one of those things where indifference is the horrible thing, right? Whether they love you or hate you, as long as they're watching. And, you know, I'm not relying just on fighting, although that is my passion and that is my number one job. There are many different things that I want to do as a martial artist, many different things I want to use my platform as a martial artist to kind of work on. And whether it's causes in cannabis or, you know, equality in the capacity of the ring card holder, or developing a brand. Because again, whether it's Weed Bay, the main event, or, you know, the Ring Boy, I own the trademark for all of them. And for instance, Weed Bay, I have t-shirts, I have a calendar that I've just come out with. And it's one of those things where you can all go to weedbay.ca to pick up yours today.
Yeah, that's exactly what I was saying. The guy is just like on top of everything already.
Well, you have to be. And like, again, it's a way to differentiate yourself from the 400 other UFC fighters.
Yeah, exactly. Because
after my fight, I'll actually be beyond just the cage and what I'll be on TV. I'm running off to Greece to film a movie, a Hollywood movie. Where, what's it called? I have a starring role and a very important part of it. And I actually have my own movie that's going to be coming out. We're in the process of financing. I play an MMA fighter, huge stretch, and I get injured, and I reinvent myself with competitive video games. So think of Street Fighter. So I become a competitive Street Fighter.
Oh shit, man! That's cool. That's cool to see that.
And it's a comedy. It's good. It's really fun. I have the script. I have a director attached to it. His name's Gary Hawes. He's been the assistant director for movies like Juno, Interstellar, all the new X-Men movies, all the new Planet of the Apes, and you know, I have great cast that's already attached to it, and a beautiful script, and it's hilarious as hell. And I'm really excited. After my fight, when I get my hand raised, I'll be hopefully. In the end of the year, top five, and I have a movie or two coming out, and a couple of different projects beyond fighting.
Man, that's amazing. So many things going on, even more things that we thought we knew about.
Yeah.
Oh man, that's so great. And like you just saying, end of the year, you think you're gonna be top five. So like, I know you guys don't want to look like way forward, because you still got to fight.
Yeah, I got to fight in a week.
Who's a top 10 fighter for many years in that division. But if everything goes to plan, like, what's the next step, the next MMA step?
To get my therapeutic use exemption to be able to use medical cannabis. My next fight is not against necessarily one man. It's against the stigma of medical cannabis. And that's what I'll say after I win. You know, I know that's the point. Like I said in my last fight, I know that's the point where I'm supposed to call someone out. But my fight is not against one person.
Cool, man. And Julian, it's not pretty cool. I think we can make him come in. I just wanted you to talk a little bit about Julian, because I know you guys train a lot together, and I know how beneficial you are, like, to him, to his fighting game, to his camp, and like giving him to the opportunity to train with like Aaron Jeffrey and people that want to put him against the cage and do what Adam Hunter is going to try to do to him. But can you talk about what Julian brings for you? Because I know that it's a working relationship, like both party provides.
Well, most importantly, it's grown into a friendship, my man. What's it called? He, for instance, whether it's here in Montreal or his visits out in, to my hometown, or even coming with me to the Performance Institute and training out at the UFC Institute down there in Vegas, You know, it's been great. Like I said, he's a friend, he's a training partner, and he's also southpaw. And coincidentally, I keep on fighting southpaw, so it kind of works out.
It's 9 out of 11?
Yeah, 9 out of 11 fights in the UFC have been against southpaws. My only two losses are... this will be 11th fight. It'll be my 8th southpaw, and my only two losses are to people that are regular stance.
That's crazy, man. So, ça va?
You can keep it in English, no problem.
Why, man? Why?
I work my English all the time with Elias. So.
Yeah, because I'm too dumb to speak it.
So let's do it in English then, so maybe your opponent will know what you're talking about if he's listening. Because you're in a huge fight too, man. It's going to be in your hometown, Gatineau. You're going to have a lot of people in, and man, they're putting you in like a huge fight. A guy that, with Marc-André Barrio gone, and with that, what happened with Strania, he's probably the number one guy in Canada at middleweight. I know you probably say it's Aaron. I guess maybe you've got an argument too for Aaron Jeffrey. But Adam Hunter, he's been signed. Shit happened in the UFC and he got cut. But now you're fighting him. So how about that opportunity? How about that spot?
That's what I need. It's the fight that I need, man. After what happened the last year, it wasn't a good year for me. And I feel I'm there, man. Right now, I've been quiet for the last year, but I'm there, man. He's gonna know, and everybody's gonna know. It's my redemption. May 24th in front of my hometown. That's what I like. I already sold like 200 tickets. It's gonna be crazy. Robert Gartin's gonna be full. So I hope you guys don't miss it. And Adam is a big challenge, but I'm ready for it, man. And I'm not scared of him. Like not an ounce, man. I don't care. I know he's gonna come to take my head off. I'm gonna be ready. And he's basically doing all the time the same thing, man. He starts like a crazy, and then it goes like this. So we'll see, but I'm ready for everything, and I can't wait to fight in May 24th.
Yep. How much do you think your last fight factors in, like, the general thought of people saying, oh, shit, nothing. There's going to be a rough one, like, for Julian?
People can say whatever they want. I don't care, man. They didn't, maybe because I wasn't with TKO before, they didn't see my last fight. I was 5-0, 5 finishes, and I'm going to be 6-1, 6 finish. That's it, that's all. You know, my last fight, man, it's a bad day at the office. It happens. And
happens to everyone.
Like, exactly. I've turned the page, man.
Exactly.
I've turned the page. Like, I tried a new weight. It didn't work for me. A lot of things didn't work that night, and that's it, that's all, man. Yeah. What can I say?
And he's still undefeated at middleweight.
Yeah, exactly.
Yeah, man.
My man.
Thanks. Hunter, too, is still undefeated at middleweight. But, like, you know, I just hope he won't be juiced up, but whatever, because he lost his last one, we'll see. But I don't care, man. I'm just ready for everything. And honestly, man, I respect the guy. Like, he's going to come for my head, I'm going to come for his head, and that's all, man. I'm going to make a great fight.
Yeah, for sure. Your last fight, man, it was like, I think we've spoke about in length, but it was just not a good idea. Like, you just had not a good idea. You saw, I'm not that heavy, I could do 70. It was not a good idea.
Exactly.
And like the weight cut took everything from you, because I know you can grapple.
Yeah, no,
like,
I know.
Everybody knows you can grapple.
Yeah.
And that fight, you just, like, you have nothing.
The beautiful thing is, he has a fight coming up, and it doesn't matter what anyone else says, because it's only between him and Adam Hunter in the cage.
Exactly.
Exactly,
that's
man.
All.
And, like, it's probably better for you to lose that early, too.
Yeah, no.
Like, you're
a decision's
only,
a decision, right? It's not like he got knocked the fuck out or anything
like
that.
And it's like
one
it's
of those
six,
things where,
six,
it's a learning
five.
Lesson. Everyone has a bad day at work, and the only difference between what's called our job and other people's job is the fact that when we have a bad day, people see it. What's it called? And, you know, he's made adjustments, and he's made, what's it called? It's all been a whole year in the capacity. It's a new year. It's 2019, and he will be undefeated in 2019.
Exactly.
Yeah, man. And that time, too, you know you've got someone that's coming to fight. Because Adam Hunter, like, the thing I really, really loved from him, from his Barrio fight, was his demeanor.
Yeah, man,
he just came there, and he, like, people asked him questions, and he was like, man, seriously, I just don't give a fuck. I've been out for 2 years. So I've just looking to get into the cage and, like, punch people and get punched, man.
This is opportunity, and obviously Julian has his opportunity as well.
He's here to fight, man. I'm going to be there to fight, too. And the only thing I can say about my loss, and then we can, like, stop talking about it, whatever, but the only thing I can say, and this is true, I've learned so much more from my loss than all my wins in amateur, all my wins in pros. Like, this is the time I've learned, like, the most and the best. So I feel I'm a better fighter right now, and I can't wait to just show people. And
I agree.
Get a good scrap with Adam. That's it, man.
Well,
yeah, and everybody loses. It's just the way you come back. If people lose and just don't come back and everything crumbles, then fuck. But if you come back and you show art and you show determination and you show improvement, at your age, you're going to show improvement. Yeah, well, it's normal. You're still early in your career, so you show step up from fight to fight.
What can I say from this is that my only regret is not that I lost. It's that I didn't fight.
So I understand.
May 24, I'm coming to fight. Mm-hmm. You know, like, I don't think I'm coming to die in the cage. I know Adam's gonna be ready to die too. So we're just two guys that's coming to fight, and that's it. That's all.
And I think that's like what people want to see from that guy, especially because he's like the Ottawa guy. He's the New Era gym guy. You're the Patnaud guy, the Sifu Pat guy, and I know you. There's no hatred, but you guys want to beat each other. You guys want to show that, like, we're the top gym in the Ottawa region. We're the place you need to come.
And he wants to win. That's the most important thing. That's the most important thing.
Yeah, exactly.
Sure, man. Win.
On that note, what's it called? Great conversation. Great chatting with him, man. What's it called? I'm looking forward to kicking ass. Oh, man. I'll be seeing you in a little bit, so I'm really excited.
Yeah, man. I'm really excited for both of you guys' fight. I'll be in Ottawa cheering real hard for the main event.
Who'll
be fighting in the co-main event.
Yes, sir.
And man, I thank you very much for taking the time to speak with me. Like I said, it's been like a long time that I wanted to have you
on. I'm glad we did.
Have that conversation like about cannabis, about everything. And just keep us posted.
Yes,
and
sir.
And I hope, man, by the end of the year, like, you're a huge Hollywood star. And we can say, hey, we know that guy. He came by your gym and he trained.
We keep burning.
For sure, sir. Thank you very much.
My pleasure, brother.
Thank you.
Merci beaucoup.
Thank you, sir, man.
On va avoir la chance de se revoir de toute façon à Gatineau. Puis, merci tout le monde. Prochaine.
Rebonjour. Donc, c'est rare que je fasse ça sur le podcast habituellement. J'aime dédier chacun des segments à des invités. Cependant, j'utilise un segment cette semaine pour vous parler de deux sujets en particulier. Le premier d'entre eux, c'est un que vous voulez entendre. J'ai pas fait de vidéo séparée là-dessus parce que je me suis dit que ça va être un bon sujet de discussion pour le podcast. C'est quelque chose que les gens vont vouloir m'entendre parler de. Et je parle bien sûr de la signature de Charles Jourdain avec l'UFC. Donc, c'est arrivé jeudi, on a appris ça vers les alentours de 17h. Charles Jourdain a signé un contrat avec l'UFC en acceptant un combat sur short notice. Il va aller à l'UFC Rochester le 18 mai prochain, dans 3 semaines. Il va y affronter Desmond Green, un gars qui vient de Rochester. C'est un combat qui va avoir lieu chez les 155 livres, malgré le fait que Charles, après son dernier combat, a dit qu'il avait fini avec 155 livres, qu'il voulait pas poursuivre sa carrière à ce poids-là. Tu sais, quand l'UFC t'appelle pis te dit « Salut Charles, on a une opportunité pour toi. C'est telle date contre tel adversaire à tel poids. C'est ta chance d'entrer dans la grosse ligue. Hein? 155 livres, n'importe quel poids. Tu dis oui, tu le prends le combat. » Et puis c'est ça que Charles a fait. Anyway, Charles est connu comme étant un gars de défi. Un gars qui est pas mal prêt à affronter n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel poids. Donc, c'est pas quelque chose qui dévie de la tradition Charles Jourdain. Que d'accepter ça sur short notice ici, je pense que... plus qu'on pense, il n'y avait pas vraiment d'autres manières que ça allait pouvoir se passer pour Charles Jourdain, l'entrée dans l'UFC. Oui, tu sais, les gens savaient que ça allait arriver tôt ou tard. On se disait que probablement d'ici la fin de cette année, peut-être début de l'autre année, après son dernier combat avec TKO, il allait probablement faire son entrée dans l'UFC. C'est quelque chose qu'on voyait venir, mais là, le short notice est arrivé, il a sauté sur l'opportunité, puis c'est tellement Charles Jourdain, ça, d'avoir une opportunité de sauter dessus et puis de souvent... la réaliser. Donc, pour ce qui en est de Desmond Green, c'est pas quelqu'un que tout le monde connaît. C'est quand même un vétéran du sport. C'est quelqu'un qui a une très belle fiche. 22 victoires et 8 défaites. Combattant qui a été fini seulement à 2 reprises. C'est dans le début de sa carrière. Sur ses 8 défaites, je pense que ses 2 premières défaites ont été par soumission. Et depuis, il n'a que perdu par décision. Affronté d'excellents athlètes, autant dans l'UFC qu'en dehors de l'UFC. C'est un 155 livres, mais un peu comme Damien Lapillus. C'est quelqu'un qui s'est battu à 145 livres avant son arrivée dans l'UFC. C'est surtout battu chez les 145 livres à Titan FC, a affronté beaucoup de très bons combattants. Là, d'ailleurs, c'est notamment Kurt Holloway et André Harrison qui sont 2 de ses défaites. Mais depuis son arrivée dans l'UFC, il y a une fiche de 3 victoires et 3 défaites. Ou Martin Brown, non, c'était pas dans l'UFC, ça, c'était à Titan FC. Donc, exactement 3 victoires, 3 défaites. Il a battu quand même Josh Emmett par décision, chose qui est très bien. Et il a battu Gleison Tibau, Ross Pearson. des gens que tu dois battre, là, je vous le cacherai pas, là, au stade de leur carrière où ils sont rendus, si tu veux être un talent viable dans l'UFC, tu dois battre ces gars-là. Ces défaites, cependant, c'est des défaites par décision contre Merbek Taisoumov, Michel Prazeres, ainsi que Roustam Khabilov. Donc, c'est un très haut calibre de compétition qui a battu Desmond Green. Puis regarde, si on regarde dans Titan FC, André Harrison, Kurt Olobo, Daniel Weichel, qui se bat pour Bellator, qui est un title challenger, Fabricio Guerrero, qui est un autre gars qui s'est battu pour Bellator longtemps, qui est un gars très, très viable, qui avait une fiche de 18 victoires, 2 défaites au moment où il a affronté Green, qui était juste 9-1 à ce moment-là. Donc, il a affronté toujours de la très bonne compétition, puis il a tendance à l'amener à la décision. Pas mal victoires comme défaites, c'est pas un grand finisher non plus. La majorité de ses victoires sont venues par décision si on regarde sur sa fiche. Donc, quelqu'un qui va avoir un 15 minutes contre Charles Jourdain à 155 livres, qui a vraiment gros dans son corps de 155 livres depuis son arrivée dans l'UFC, et quelqu'un qui, même s'il a perdu autant de combats qu'il en a gagné dans son arrivée dans l'UFC, c'est vraiment quelqu'un qui a été très compétitif dans chacun de ces combats-là. Et puis oui, on peut peut-être lui donner un peu le tag de quelqu'un qui fight to his competition, dans le sens que s'il affronte quelqu'un qui est vraiment meilleur que lui, puis on s'attend absolument pas à ce qu'il gagne, comme, mettons, quand il a affronté Merbek Taisoumov ou quand il a affronté Michel Prazeres, on s'attendait pas à ce que Desmond Green gagne ce combat-là du tout. Pourtant, dans la défaite, il a réussi à surprendre, il a réussi à être compétitif, il a réussi à donner un meilleur combat qu'on pensait qu'il allait le donner. Chose qui arrive aussi des fois dans ses victoires contre des gars qui sont un moins bon niveau de compétition. Il avait tendance à gagner des décisions. Il a affronté, mettons, Des Hill, qui était 8-2 dans Titan FC. Il l'a amené à la décision, il a amené Martin Brown à la décision, il a amené James Freeman à la décision, il a amené beaucoup de gens, Steven Seiler, qui est un bon combattant qu'on a vu dans l'UFC, mais qui avait tendance à être un peu kill or be killed. Des Green l'a battu, mais il l'a amené à la décision. Donc beaucoup de gens ont tendance à se rendre à l'adhésion puis à livrer des combats compétitifs avec Des Green, même quand il s'avère être vraiment meilleur qu'eux. Donc, j'ai aucun doute que le combat de Charles va être très compétitif. Il faut qu'on prenne ça comme son combat d'entrée dans l'UFC. Regardez Kyle Nelson, justement. C'est un très bon exemple. Il a réussi à avoir un short notice face à Diego Ferreira chez les 155 livres. C'est clairement un 145 livres. Donc, il était compétitif en début de combat. Ça a mal été, il a perdu, mais ça n'a pas fait descendre son stock. Il n'y a personne qui dit « Ah, Kyle Nelson, il n'est plus bon à cause de ça. » Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver à Charles dans ce combat-là, comme Charles peut arriver dans ce combat-là puis aider Charles puis sortir une performance comme il a fait contre Damien Lapillus, qui, ben sincèrement, Damien Lapillus n'est pas dans l'UFC, mais est un genre de vétéran avec beaucoup d'expérience qui a tendance à faire des longs combats. S'il est fini, c'est plus tard où ça se rend à la décision. C'est un peu la même affaire pour Des Green. La seule différence entre les deux, c'est que Des Green a l'expérience UFC, vraiment. S'est rendu à la décision dans l'UFC, a eu de l'adversité dans la cage de l'UFC, chose que Lapillus n'avait pas et chose que Charles n'a pas encore. Mais tu sais, il y a un début à tout. C'est vraiment très excitant de faire ça. C'est, assurez-vous que je vais probablement faire un live stream ou quelque chose pour son début dans l'UFC à Charles Jourdain. C'est vraiment pas un combat qu'on veut manquer. Ça va être absolument génial. Je suis vraiment content pour lui. Je suis vraiment content pour Charles. Si vous voulez mon opinion personnelle là-dessus, c'est cool. C'est un gars d'opportunité. Il a sauté sur son opportunité. C'était, selon moi, le prochain, du moins québécois, qui devait faire le saut. T'sais, selon moi, il y a plein de gens qui pourraient être dans l'UFC, dans TKO présentement. Notamment Cyril Gane chez les 135 livres, probablement Manis, Lapillus, Arnett et Hill sont tous de niveau UFC, même Xavier Alaoui, je vous dirais probablement. Il y a beaucoup de combattants comme ça, les Todd Stout, on a évidemment Jesse Ronson et Jonathan Meunier qui, selon moi, devraient être dans l'UFC. Jonathan aurait dû rester là, Jesse Ronson, il aurait dû rien arriver quand il était appelé là, au mois de décembre et tout, mais bref, il y a beaucoup de combattants qui devraient être dans l'UFC, selon moi, qui pourraient être dans l'UFC sur le roster de TKO, mais quand on regardait les petits Québécois en développement, c'est qui le prochain qu'on savait qu'il allait faire le grand saut? C'est Charles Jourdain, et puis c'est aujourd'hui que ça s'est concrétisé, du moins aujourd'hui au moment où je vous parle, parce qu'on est encore jeudi au moment où j'enregistre ça, et C'est génial, je suis vraiment content, je suis vraiment content pour toute son équipe, c'est du bon monde. Je le dis à toutes les fois, là, j'ai l'impression de me répéter par rapport à ça, mais oui, j'aime beaucoup Charles Jourdain, j'aime beaucoup son équipe, je trouve qu'ils sont vraiment le fun, c'est des bonnes personnes, puis ils ont travaillé très fort pour ça, puis je suis vraiment content. Donc félicitations Charles, félicitations à Éric Bertrand, félicitations à Fabio Hollanda, félicitations à Louis aussi qui travaille beaucoup avec Charles, félicitations à toute l'équipe. Toute l'équipe qui est à l'entour d'eux, j'en oublie peut-être, mais bref. Bravo, je suis vraiment fier de vous, puis on va suivre ça de façon très attentive le 18 mai prochain à l'UFC Rochester. Ça nous fait un mois de mai absolument incroyable. On a le UFC Ottawa, les débuts de Barrio le 4 mai. C'est la fin de semaine prochaine. Ensuite, on va avoir les débuts de Charles Jourdain à l'UFC, qui va presque avoir réussi à débuter à l'UFC avant Marc-André Barrio, aussi malade que ça peut creuser. Leur début UFC va être vraiment très... peu à se passer, puis on va finir le mois de mai, le 24, avec le TKO 48 à Gatineau, qui va être une carte absolument incroyable. Puis je vais avoir toute la couverture pour ça. Vous le savez, MMA Talk va être au UFC à Ottawa. J'ai pas encore de Media Pass, mais je me suis acheté un billet. Je m'en sers, qu'il n'y a aucune idée que j'allais manquer ça. À Rochester, on va probablement faire, tu sais, je vais probablement faire un live stream pendant le combat de Charles pour qu'on puisse vivre ça ensemble. Parce que vous puissiez me faire part de vos commentaires et puis qu'on puisse justement vivre les débuts de Charles dans l'UFC ensemble en écoutant ça. Et puis l'UFC, le TKO 48 à Gatineau, vous le savez que je le sais, qu'on le sait tout, que je vais être là et qu'on va faire les mêmes affaires que d'habitude. Ceci étant dit, mon deuxième sujet de discussion cette semaine, c'est les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est le deuxième tour qui va entamer demain. On est mercredi d'ailleurs, on n'est pas jeudi depuis tantôt. Je dis qu'on a appris ça jeudi, on a appris ça mercredi. On est mercredi, nous sommes mercredi parce que demain on est jeudi. Et demain, on va voir le premier match du deuxième tour. En ce moment, si vous voulez avoir un peu une idée de quelle heure il est, je viens tout juste de finir d'écouter le match entre les Hurricanes et les Capitals, qui heureusement a été gagné par les Hurricanes. Je suis tellement content, vous avez même pas idée à quel point je suis content que les Hurricanes aient gagné cette série-là puis passent au deuxième tour. J'aime pas vraiment les Capitals, j'ai jamais été un fan des Capitals, puis j'adore les Hurricanes, je trouve que c'est une jeune équipe, j'adore leur défensive, j'adore Sébastien Nao, j'adore beaucoup de jeunes dans cette équipe-là, donc let's go Hurricanes. Mais je voulais vous parler des différentes séries, peut-être faire une petite prédiction. J'avais fait ça pour le premier tour avec Seb Mani. Là, je le fais tout seul, fait que c'est ça qui arrive. Et puis la première série dont je veux vous parler, et non la moindre, parce que cette série-là engendre un beef entre moi et Stéphane Patry, parce que Stéphane Patry, je sais pas si vous le savez, c'est un grand fan de l'Avalanche du Colorado, parce que c'est un vendu, puis c'est un gars de Québec, puis il veut pas prendre pour les Canadiens de Montréal, puis il aime encore ses Nordiques, puis il pleure le fait que ses Nordiques ne reviendront probablement pas de sitôt à Québec. Donc ça fait de lui un partisan de l'Avalanche, puisque ses Nordiques sont maintenant à l'Avalanche. Et puis, malheureusement pour Stéphane, ses Avalanches devront affronter mes Sharks de San Jose, mon équipe préférée dans la Ligue nationale de hockey. Et puis ça fait qu'il y a un beef entre moi et Stéphane Patry, parce qu'il prend pour son team d'avalancheux d'anciens Nordiques, et puis moi je prends pour les Sharks. Puis c'est ça, on peut pas bien s'entendre. Le hockey, c'est plus grand que la vie, tu sais. Donc c'est ça, moi et Stéphane Patry, on est en beef. Donc Patry, ça ira pas bien ton affaire, man, je le dis. Tes Avalanches, là, zéro pin bar. Moi, je prédis pas une victoire de ce team-là du tout là pour la deuxième ronde. Oui, Martin Jones est pas capable d'arrêter un ballon de plage, mais Martin Jones a les deux meilleurs défenseurs de la Ligue nationale devant lui. Et puis c'est pas Makar là ou quelque chose de même, comme Steph disait à la Voix des Guerriers. Je sais même pas c'est qui ce jeune-là. En fait, je sais très bien c'est qui là, c'est un très bon jeune défenseur, mais tout ça pour dire un peu de trash talk sur le site, ça fait pas de mal à personne, mais tu sais, Makar pas Makar, Barry pas Barry, l'Avalanche ont pas l'équipe des Sharks de San Jose. Puis oui, ils vont peut-être faire mal d'avoir perdu Joe Pavelski aussi, parce qu'il s'est fait sortir assez sévèrement là, dans le dernier match, qui a complètement changé l'allure du match d'ailleurs, qui a donné cette série-là aux Sharks de San Jose dans un dénouement absolument incroyable que j'ai absolument manqué parce que je dormais. Mais c'est pas grave, j'ai checké Highlight le lendemain, puis c'était bien le fun, puis j'étais bien content d'apprendre que mes Sharks passaient au deuxième tour et allaient pouvoir écraser l'Avalanche de Stéphane Patry. Donc je suis bien content pour ça. Et puis tu sais, les Sharks ont gagné cette série-là. Comme j'ai dit, j'ai peur que l'absence de Pavelski fasse mal, mais je pense vraiment que ça va être un duel entre la grosse ligne de l'Avalanche et puis Carlson et Burns. Je pense qu'à tout moment, il va y avoir soit Carlson, soit Burns sur cette grosse ligne-là, sur ces gros éléments-là, qui sont McKinnon, qui sont Rantanen, qui sont Gabriel Landeskog, on les connaît, mais je pense que je me dois de favoriser les Sharks dans cette série-là, parce que autant Martin Jones n'est pas le meilleur des gardiens de but, autant Grubauer non plus. Et puis, oui, tu sais, il connaît des bons moments, puis tout, mais c'est pas... Si j'avais à donner le titre de gardien Cendrillon des séries, ben, Cendrillon après saison, qu'il a connu, peut-être pas, mais bref, ça serait Robin Lehner, là. Robin Lehner accorde aucun but. Donc, je pense pas que c'est Grubauer qui va venir voler le show ici. Je pense que les Sharks, même sans Pavelski, ils ont une belle petite équipe, une belle petite attaque, ils ont au moins trois trios qui produisent beaucoup, puis ils sont capables d'aller plugger les trous. S'il manque un Pavelski, tu peux monter peut-être un Melker Carson au centre, quelqu'un qui est capable, qui est pas Joe Pavelski, on s'entend, c'est probablement leur meilleur joueur si on enlève Logan Couture, puis leurs deux défenseurs qui sont les deux meilleurs dans la Ligue nationale, comme j'ai mentionné, mais bref, il y a moyen de patcher des trous à San Jose. C'est quand même une équipe qui a de la profondeur, contrairement à l'Avalanche qui souvent, ils ont pas mal l'air d'une équipe avec une ligne et demie, puis oui, deux bonnes paires de défenseurs, puis un gardien qui goal un peu sa tête depuis le début des séries, bien que je suis pas porté à croire que ça va continuer. Puis c'est ça, j'ai mes Sharks face à l'Avalanche de Stéphane Patry. Donc Patry, tu vas manger tes bas big, désolé, mais c'est ça qui arrive. Sharks en 5 dans cette série-là. Ensuite, on passe à la série pour laquelle j'ai absolument le moins d'intérêt. Ce sont les Blues et les Stars. Je peux pas croire que les Stars ont battu l'Avalanche. Moi, pourtant, j'étais convaincu que Tyler Seguin et Jamie Benn savaient plus jouer au hockey. Tu sais, ça a été dit par même les membres de l'organisation des Stars qui sont absolument des génies. Je peux pas croire, quand tu dis ça, tes deux meilleurs joueurs qui sont deux des meilleurs attaquants qu'on a vus des 10 dernières années dans la Ligue nationale, qui continuent quand même à jouer pour toi, à mettre de l'effort, puis que tu réussis à battre les Prédateurs de Nashville en première ronde des séries. J'espère que ça va y faire manger ses bas à ce style clown-là. Mais tout ça étant dit, je pense pas que j'ai vraiment confiance contre les Blues. Les Blues viennent de sortir, les Jets viennent de sortir probablement des équipes favorites dans l'Ouest. Donc je pense que les Blues arrivent avec beaucoup de momentum dans cette série-là. Toujours le facteur Ben Bishop. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec Ben Bishop cette année. C'est comme redevenu un gardien de but excellent qui... toujours une faiblesse dans le top du net, là, par exemple. On s'entend, le gars, il a des très grosses pattes, puis il couvre beaucoup de filets, il est gigantesque, mais on dirait qu'il y a de la misère à se servir de sa mitte, puis son bloqueur un coup des fois. Fait que peut-être une petite stratégie, lancer top corner, les boys, mais pour vrai, j'ai confiance dans les Blues, une équipe très, très, très complète, grosse offensive, bonne offensive aussi, qui est capable de forecheck, très, très bons attaquants de two-way chez les Blues sur plusieurs des trios. C'est une belle petite équipe, puis je pense que c'est probablement à ce stade-ci l'équipe favorite dans l'Ouest, selon moi, pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. Donc j'ai les Blues à un 5-6 et tout. Je dirais 6, les Stars connaissent des bons moments, mais je pense que mes choix des Sharks et des Blues sont clairs dans l'Est, probablement plus clairs que mes choix dans l'Ouest. Alors qu'on a les Islanders contre les Hurricanes comme première série que j'adore, pour être bien franc avec vous. C'est sûr que j'aurais aimé voir les Pingouins là. Les Islanders jouent très bien. Robin Lehner est absolument incroyable depuis le début des séries. Il ne laisse absolument rien passer. Et ça va être lui le gros facteur encore dans cette série-là, je crois, parce que si Robin Lehner continue à garder les buts comme il fait, ça va être dur pour les Hurricanes de marquer des buts. Mais les Hurricanes sont très bons. Moi, j'ai confiance. Ben, pour être franc avec vous, je prends vraiment pour les Hurricanes dans cette série-là, là, je vous le cacherai pas. Mais je pense que je vais aller pour les Islanders en 7 ou en 6. Ça va être une longue série, ça j'en ai aucun doute, ça va être une série chaudement disputée. Mais je pense que Robin Lehner vraiment là, est en feu, puis s'il continue à garder les buts comme ça, ce qui est arrivé pas mal toute la saison, c'est pas pour rien qu'il est en nomination pour le Vezina. Je pense que ça va être très dur pour les Hurricanes, malheureusement, qui viennent d'overcome les odds le big time en battant les Capitals et Alexander Ovechkin, les champions de la Coupe Stanley, viennent de les sortir de là. Donc ils overcome les odds, oui. Mais ouais, j'ai de la misère à avoir confiance en les Hurricanes. Mais même, ils ont une excellente défensive. Je pense que ça va être une série à bas pointage d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que Robin Lehner va continuer d'être le facteur marquant comme il a été, comme il y a eu une grande partie du fait que les Islanders ont une saison comme ça. Et puis je pense que ça va continuer dans la série. J'ai les Islanders en 7. Et puis finalement, Boston Blue Jackets, oh my god, c'est une série qui est déchirante pour moi. Déchirante parce que, écoutez, j'ai le choix de prendre pour les Bruins ou de prendre pour John Tortorella. Puis ben franchement, j'ai envie de faire ni un ni l'autre. Pour vrai, si les deux équipes pouvaient perdre cette série-là, je serais vraiment content. Je déteste les Bruins. Écoutez, ils viennent de battre les Maple Leafs. C'est absolument crève-cœur. Les Maple Leafs, c'est mon équipe dans l'Est. C'est ma probablement deuxième équipe préférée dans la Ligue nationale après les Sharks de San Jose, Watch Out Patrie. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai pas envie qu'aucune de ces deux équipes gagne-là, mais je pense que les Bruins vont gagner, là, for the record. Aussi, je pense... Faut que je prenne pour quelqu'un. Je pense que je prends pour les Bruins dans cette série-là. Ben franchement, je pensais jamais dire ça un jour dans ma vie, mais je pense que je prends pour les Bruins parce que j'aime pas les Blue Jackets, j'aime pas John Tortorella, j'aime pas le fait que l'équipe a vendu absolument son avenir au complet pour aller chercher des joueurs de location qui voudront même pas signer là. Puis que, tu sais, j'aime ça les équipes qui finissent dans le bas, une couple d'années, repêchent très haut, puis là se rebâtissent, créent des dynasties comme les Kings l'ont fait, comme les Blacks l'ont fait, comme les Pingouins l'ont fait, puis les Blue Jackets, ils ont essayé d'adopter l'approche. Moi, je vais aller chercher tous les joueurs de l'occasion possible, puis faire un gros push pour gagner la Coupe Stanley. Et puis, c'est bien parti, ils ont sorti le Lightning en 4. Bobrovski semble être bon en série pour une raison ou une autre, mais Tukarask aussi est bon en série. Les Bruins, c'est une équipe de série, c'est une équipe qui est rodée pour ça. Ils ont le meilleur trio dans la Ligue nationale en Marchand, Bergeron, Pasternak. Et puis, tu sais, si j'ai le choix de prendre pour John Tortorella pour une équipe qui essaie de jouer la game de location ou de prendre pour Patrice Bergeron, je vais prendre pour Patrice Bergeron. Puis pour être bien franc avec vous, autant ça me déplaît, ma prédiction au début des séries éliminatoires pour gagner la Coupe Stanley, c'était les Bruins de Boston. Donc je vais encore avec les Bruins de Boston ici. Évidemment, j'ai pas le choix, ça me déplaît grandement, mais j'ai Boston en comme 6 matchs dans cette série-là. Donc on récapitule, j'ai Boston en 6. Je prends pour Boston. Dans l'autre série, j'ai les Islanders en 7. Je prends pour les Hurricanes de tout cœur. Dans l'autre série, j'ai les Blues contre les devant les Stars en comme 5-6 matchs, c'est ça que j'ai dit. Pour qui je prends, je suis complètement indifférent à cette série-là, mais mettons je prends pour les Blues. Et puis Sharks contre Avalanche, attache Tatuc Patrie, parce que ça sert pas bien, mon gars. Ben, mettons, Avalanche, ils vont se faire croquer tout rond par mes Sharks. Tu vas capoter, ben raide. Et puis c'est ça, man. C'était mon petit segment, mes prédictions pour le deuxième tour des séries éliminatoires et ma réaction à la signature UFC de Charles Jourdain. Et puis, c'est ça.
Salut tout le monde, comment ça va? On est aujourd'hui en présence du seul et de l'unique Ayman Zahabi qu'on va avoir la chance de revoir dans la cage très bientôt dans un combat qui nous excite beaucoup, particulièrement les Québécois. Puis je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui, puis je suis vraiment content qu'ils prennent le temps de nous parler de ça. Donc salut Ayman, comment ça va?
Ah, ça va très bien, et toi?
Moi, ça va toujours super bien. Comme je te dis, je suis vraiment content d'avoir la chance de parler avec toi aujourd'hui. T'es à l'aube de ton retour dans la cage, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Et puis tu vas être en action là à l'UFC Ottawa, c'est face à Vince Morales. Donc je voulais juste savoir comment tu t'étais porté depuis la dernière fois qu'on t'a vu dans la cage.
Comment je me suis porté?
Ouais, comment ça a été? Comment tu vas, dans le fond?
Ah oh ouais, tout va bien. Là. C'était dur de retourner dans l'entraînement avec les 3 mois après le chaos. Bien sûr, ça, j'ai pris mon temps à revenir. C'était dur parce que dans le gym, je fais beaucoup de sparring avec Arnold Allen et Mirzad Bektik. C'est un peu plus lourd, puis quand on y va, on va à 100%, on va fort. Puis c'était dur de retourner au gym avec ces gars-là. C'était pas au niveau tout de suite après un chaos. Mais là, j'ai beaucoup de confiance. Je suis revenu à normal. Ça fait un an, puis je suis prêt à rentrer dans le cage.
Ça a-tu été dur de dealer avec cette défaite-là? Parce que moi, j'ai regardé le combat justement il y a quelques jours, parce que j'ai des prédictions à faire pour cette carte-là. Puis c'est sûr que c'est le chaos que tout le monde se rappelle, mais je pense pas que le monde se rappelait à quel point ça allait quand même bien pour toi, ce combat-là, je pense, jusqu'au moment où ça s'est arrivé. Fait que je me demandais comment t'étais vécu avec ça d'un côté peut-être plus émotionnel.
Ouais, c'était dur parce que je pense que, c'est sûr, lui a lancé le coup. Sur 50% du chaos, c'était de lui, mais je pense que l'autre 50%, c'est c'est de moi d'être, j'ai devenu trop agressif, comme, parce que il m'a pas fait mal le premier round ou le deuxième round avec ses coups, il me faisait rien. Je pensais que je pouvais rentrer dans ses coups et il ferait pas mal du tout. Puis je pensais que moi, avec mon right uppercut et mon jab, je lui ai fait mal. Puis je pensais qu'il était commencé à briser mentalement. Et je voulais vraiment le finir. Parce que moi, j'ai pas gagné par décision. Je veux finir tous mes combats. Puis je pensais que j'étais proche à le finir. Donc j'étais allé comme Terminator mode. Et je voulais vraiment arrêter de finir le combat. T'sais? Parce que moi, je veux gagner le bonus. Je veux pas juste gagner des combats. Je veux faire de l'argent. Je veux devenir populaire. Les affaires comme ça. Puis je suis tellement habitué que quand je ouvre ma machine, les gars, ils tombent. Puis je leur finis facilement. Puis bon, il était un gars avec un bon record, bonne expérience. Puis tu sais, il m'a bien pogné. Puis ben, je trouve que une grosse partie, c'est de ma faute. J'étais trop agressif.
C'est sûr que c'est une possibilité quand t'essaies d'y aller, comme tu dis, au fond de la machine, puis t'es rendu avec des gars justement d'expérience. Lui, il avait vécu la défaite auparavant, s'était fait pogner dans une soumission.
Ouais.
Toi, t'avais pas encore vécu ça dans ce combat-là. Je me demandais, avec le recul, maintenant que ça fait un bon moment, que t'as eu la chance de revenir t'entraîner, est-ce que ça finit comme étant une expérience positive, ça, dans ta carrière, au final, peut-être, cette défaite-là?
Ouais, beaucoup de choses positives que j'ai prises de ça. Là, je veux encore aller pour le finir le combat. Je veux quand même essayer de finir le combat, mais d'une manière plus stratégique, plus intelligente. Aussi, j'ai pris l'année où j'ai allé souvent à New York pour m'entraîner avec John Tenhar et les gars du Enzo Gracie Academy pour améliorer mon jiu-jitsu. J'ai atteint mon ceinture noire. Et là, si j'amène quelqu'un au sol ou si le combat va au sol, je vais avoir plus de confiance. Je pense que ça va m'aider beaucoup dans les combats.
Définitivement. Là, tu vas être en action à l'UFC Ottawa. C'est dans un vraiment bon match-up. Un autre, je te dirais, prospect intéressant. Quelqu'un qui est passé par le Contender Series. Quelqu'un qui a affronté... quelqu'un qui était très en vue de l'UFC. À son premier combat, il a affronté Song Yadong, là, le prospect chinois que je pense qu'il aimerait bien pousser. Donc, tu te retrouves encore dans un combat... contre un combattant qu'on a vu avoir des belles performances dans l'UFC, je ne sais pas si c'était quoi ton read, toi, précisément sur ce combat-là contre Vince Morales.
Je trouve que c'est un gars qui favorise son striking de plus que n'importe quoi d'autre. Comme il ne shoot pas souvent, puis même avec le combat de Yadong, il s'est fait amener au sol par Yadong. Je trouve que Yadong, c'est un peu plus qu'un striker, mais il était quand même capable de l'amener au sol. J'ai vu des faiblesses, mais aussi il y a de la force dans sa main droite. Il peut mettre des gars sur leurs fesses, donc je fais attention, je ne veux pas me toucher par sa main droite.
Est-ce que tu penses que c'est un combat où tu vas avoir beaucoup de chance de faire les choses que tu veux faire? Parce que moi, ce que j'ai cru peut-être un peu constater sur ton adversaire en regardant ses combats, c'est qu'il est très bon, il est dans le combat, c'est compétitif, mais on dirait... qui réussit jamais à faire la petite chose de plus qui va lui donner le round. Des fois, on dirait qu'il compétitionne plus, qu'il tente genre vraiment de combattre, d'aller chercher les points cruciaux pour gagner les rounds. Donc, est-ce que tu penses que c'est un combat que tu vas avoir le temps de t'exprimer? Est-ce que tu t'attaques à l'aile proche de la 15e minute ou tu penses que c'est un combat que tu vas être en mesure de terminer assez rapidement?
Je veux toujours terminer le combat le plus vite possible. C'est ça mon but. Je m'entraîne pour ça. Mais, tu sais, c'est un gars qui, je trouve que, il est un peu calculé dans le respect que, il fonce pas tout le temps, mais quand il recule, il cherche toujours lancer sa main droite, peut-être, crochet gauche, main droite, 1-2, il recule pas avec la barre, il recule pour chercher le counter, t'sais.
Ouais, c'est un combattant qui a l'air assez technique. C'est pas pour rien qu'il l'avait amené sur le Contender Series. C'est quelqu'un qui donne des bons combats aussi, là. Veux pas. Comme t'as dit, il favorise le combat debout. C'est quelqu'un qui a pas peur d'échanger. Donc,
ouais, c'est ça.
Je pense que c'est...
Il a pas peur d'être à côté de la clôture. C'est comme un Tyron Woodley dans ce sens. C'est jamais quand il va exploser. T'sais. Il recule, ouais, il donne le centre. Mais quand il est sur la clôture, faut faire attention parce qu'il y a encore de la force. Je peux pas juste rentrer dedans, tu sais.
Exactement, puis ça va être un bon combat. Je me demandais, tu sais, ça fait un longtemps que t'as pas eu la chance de mettre les pieds dans la cage. Est-ce que t'es plus excité qu'à l'habitude pour ce combat-là ou ça reste la routine?
Je sens jamais l'excite jusqu'à temps que j'arrive là les mardis. Mais pour moi, comme dans mon histoire, comme c'est un gros combat pour moi parce que c'est un comeback. Tu sais, ça fait un an que je n'ai pas venu. Puis quand j'ai perdu mon combat, beaucoup de personnes autour de moi, ils savaient que c'est sûr que j'allais retourner. Puis il y a du monde qui m'ont demandé, oh, est-ce que t'es fini, est-ce que t'es fini. Puis je veux juste, I want to extinguish that. Tu sais, je veux juste enlever toute la doute de tout le monde pour ce combat-là. Que je veux montrer que j'ai rien perdu dans l'autre combat. Comme j'ai perdu le combat, mais mentalement, je suis encore là, tout va bien, puis j'adore le sport, je veux toujours compétitionner, puis je suis encore meilleur que j'étais là, à ce date-là.
Ouais, je comprends un peu la question dans le sens que c'est sûr que c'est un gros chaos, ça s'est retrouvé sur des listes de fin d'année, puis tout, fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui auraient été victimes de quelque chose dans le genre, qui diraient, ouais, pas sûr que j'ai envie de retourner faire ça, mais ouais. Des fighters comme vous, on l'a vu, toi, dès que t'as eu la chance de retourner dans le gym. On te voyait dans le gym, tu sais, on voyait dans tes, dans tes stories Instagram que t'étais là, tu t'entraînais, tu t'améliorais. Et puis, je pense que, tu sais, c'est juste ça qu'on a besoin de voir pour savoir que le gars, il a encore la drive, justement, là, de continuer puis d'aller de l'avant. C'est sûr que si quelqu'un revient pas dans le gym pendant 6 mois, 7 mois, là, il y a des questions qui se posent. Mais dès que le gars peut être dans le gym, s'il est déjà dans le gym, c'est là que tu vois que, tu sais, la drive est encore là. Puis que, justement, ça va pouvoir être utilisé comme quelque chose de positif, tu sais, cette défaite-là. Parce que, tu sais, on le sait, c'est arrivé au plus grand, toi-même, tu connais bien Georges St-Pierre, évidemment.
Ouais, ouais.
Ça y est arrivé avec le combat de Matt Serra. Lui, c'est sûr que c'était vraiment à une plus grande échelle. Il était déjà champion du monde et tout.
Ouais.
Mais, tu sais, c'est une défaite comme ça qui lui est arrivée. Puis, c'est bon de voir, justement, que tu continues de foncer là-dedans. Et puis, on va finalement avoir la chance de te revoir dans la cage. Ouais. Moi, personnellement, je suis super excité pour ce combat-là. C'est une carte qu'il y a beaucoup d'amateurs québécois qui ont l'œil dessus aussi parce que on a un combattant que beaucoup de gens aiment, Marc-André Barriot, qui va faire ses débuts.
Oui.
On a tous nos combattants canadiens qui sont en action sur la cage. Et puis, dans la cage, puis toi, t'es un de ceux qui va représenter le Québec sur cette carte-là. On n'aura pas la chance d'avoir Oli. On n'a plus la chance d'avoir Georges.
Oui. Donc,
c'est comme. C'est un peu. En plus, toi, étant du Tristar, c'est comme un peu toi qui porte le flambeau des Québécois sur cette carte-là, du moins. Là. Selon moi, du moins.
Oui, oui, merci. Oui, je suis fier de le porter aussi.
Excellent. Je me demandais, juste finalement, que tu me dis au début, quand je suis revenu dans le gym, je me suis entraîné avec Arnold Allen, je me suis entraîné avec Mirsad Bektic, et puis...
Ouais,
juste que tu
c'est
nous,
dur.
Je veux juste que tu nous parles un peu, tu sais, de ces gars-là, puis de la chance que t'as, dans le fond, de les avoir à tous les jours avec toi, puis de littéralement avoir des combats plus difficiles que ton combat, probablement, tu sais, à tous les jours dans le gym.
Oui, c'est... Mirzad, c'est un fou de lutte, là, pis, mais il m'a, tu sais, quand j'avais pas vraiment ma confiance, puis je recommence à prendre des coups, tu sais, à la tête, il était capable de m'amener au sol, il me torchait, tu sais, vraiment au début. Mais maintenant, tu sais, je retourne à être proche, comme moi, pis lui, c'est like neck and neck, tu sais, on est au même niveau. Puis avec Arnold, man, là, ce gars-là, il frappe plus fort que personne m'a jamais frappé dans ma vie, tu sais. Il y a vraiment de la force dans ses mains. Tu vas avoir plus dans ses combats quand il a atteint plus d'expérience, mais je te dis, dans le sparring, c'est un cogneur, ce gars-là. Puis quand je retournais de mon chaos, j'avais des butterflies dans ma ventre, chaque fois qu'on avait un round ensemble, tu sais. Mais maintenant, j'étais capable de... I overcame all the fears, the butterflies, puis là, ça va à 100% avec eux.
Excellent. Si on avait à y aller d'une petite prédiction, là, comme ça, toi, les connaissant très bien, c'est deux des meilleurs prospects à leur poids chez les 145 livres.
Oh, yeah.
C'est lequel qui se rend au title shot avant l'autre?
Avant l'autre, ça doit être Mirzad, parce qu'il est déjà dans le top 10, puis il était supposé avoir un vraiment bon combat avec, je pense son nom c'est Mokano.
Ouais, Renato Mokano.
Ouais, s'il l'aurait battu, peut-être il y avait un combat pour le titre. So, lui, il est déjà, comme il lui manque un combat, tu sais. Arnold, peut-être deux ou trois, mais Mirzad est juste là.
Ouais, Arnold, je pense que c'est vraiment fait... On avait entendu parler, c'est un grand prospect, mais c'est à son combat quand il a eu le comeback win absolument incroyable. Je pense que c'est là que tout le monde a vraiment ouvert les yeux sur Arnold Allen, parce que d'un, on l'avait jamais vu vraiment avoir de la difficulté. Il a non seulement eu de la difficulté, mais il a overcome all that pour aller chercher la victoire. Donc, je pense que c'est un... C'est définitivement quelqu'un... Moi, ça me surprendrait pas dans toutes les 145 livres. Ça en est un qui, d'ici la fin de l'année, peut se retrouver, selon moi, dans la même position que Mirsad est en ce moment, puis que personne ne va vraiment l'avoir vu venir.
Ouais, mais c'est fou parce que pour moi, j'aime pas qu'il met juste dans les combats dans Angleterre. Tu sais, ce serait bien s'il amènerait se battre au Canada, aux États-Unis, you know, au Brésil, tu sais, pour ouvrir son image au monde. Tu sais.
Ouais, c'est sûr, parce que c'est sûr que quand t'as des draws locaux, ils aiment bien mettre localement, mais c'est vrai que je pense que c'est une critique qu'il y a beaucoup de gens qui ont. On a souvent les fighters canadiens, c'est les cartes canadiennes, les fighters brésiliens, c'est les cartes brésiliennes.
Ouais.
C'est sûr que c'est faut dire que t'atteignes un certain niveau, puis là, ils vont commencer à te mettre aux États-Unis, à Vegas, à ces endroits-là, mais...
Puis on sait jamais quand ça va arriver. Regarde, ouais, même un gars dans mon poids, son nom c'est Peter Yan, il a fait 3 combats en rythme, boum, il est dans le top 10, tu sais. So, même pour moi, c'est ça que je mets dans ma tête. Si je gagne 3 combats cette année, peut-être je suis dans le top 10, peut-être dans les prochaines, je vais être dans le top 10, on sait pas, tu sais. Ça peut passer vite en UFC. Même Joe Soto, il a une fois, il s'est battu pour le titre contre TJ, en 24 heures, notice, ça se passe vite, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver à UFC.
C'est ça, exactement, tu sais, tu peux tout simplement être le highlight d'une carte, là, tout le monde parle de toi, ouais. L'UFC va vouloir te rebooker, tu sais, un fast turnaround, puis c'est souvent de même que ça dégringole rapidement pour les gars, ouais. Puis ce qui est le fun sur cette carte-là, la carte sur laquelle t'es, c'est qu'elle est vraiment top heavy, tu sais, en termes de big name value, là, dans l'UFC, t'as le main event, eux autres, ils vont aller chercher un bonus,
ouais,
mais le reste de la carte est wide open. Il y a beaucoup de combats que ça pourrait être le combat duquel on parle après Cowboy contre Aya Quinta le lendemain, tu sais, le dimanche. Puis il y a beaucoup d'opportunités pour vous, justement, d'être ce nom-là, d'être cette personne-là que, oh, t'as le highlight de la carte, puis vu que c'est pas un pay-per-view qui est vraiment à stack, puis qu'on n'a pas tant d'affaires à parler le lendemain, ça peut être toi qui est le talk of the town, ça peut être toi qui est le,
ouais,
le
tout le monde a... Bonne chance de ça, c'est
ouais,
sûr.
Ouais, c'est ça. Ça peut être toi le clip viral sur UFC.com que tout le monde partage, tu sais. Fait que
ouais.
Des cartes comme ouais. Ça, je pense que si on a un avantage à trouver du fait qu'il y a beaucoup plus de cartes du UFC qu'avant, je pense que c'est ça pour les gars. Il y a plus
ouais,
de.
Ça, oui. Ben, c'est dur. Il y avait un événement aussi avec Max Holloway contre Dustin Poirier, puis.
Ouais, Adesanya Gastelum.
Ouais, c'est comme 2 combats de fou de dessus, puis il y avait d'autres combats avec des filles qui ont eu des soumissions, des KO. C'est dur à donner des bonus, mais cette carte-là, tout le monde a une bonne chance.
Exactement. Tu parles de Kelvin Gastelum, tu me fais penser à un autre gars du TriStar, puis je veux que tu nous en parles, parce que j'aime ça que tout le monde nous en parle. T'as peut-être okay. Deviné de qui je parlais. Je parle de Nasrat, vu qu'ils sont ouais. Littéralement identiques, là, les deux.
Ouais, même ils sont comme des frères, ils sont jamais connus.
Ouais, mais parle-nous un peu de Nasrat, parce que j'ai juste des bons commentaires sur lui, puis lui aussi, c'est comme un gars que je considère comme pouvant devenir un gros facteur à 155 livres, là, dès cette année, s'il y a les bons match-ups.
Oh ouais, lui, il a tellement de force dans ses mains, un des meilleurs strikers qu'on a jamais eu de TriStar. Son style est vraiment bon, puis il est pas trop wild non plus, tu sais. J'étais choqué que, c'est pas son nom, Guti ouais. Était pas fini par Nasrat. Je crois pas comment il était capable de finir ce combat-là. But, ouais, il punit tout le monde dans le gym. Il est vraiment fort. Puis, il a une très bonne mentalité. Puis, il est tellement jeune aussi. Je pense qu'il est comme 24 ans.
Ouais, c'est ça qui est fou, hein. Il est tellement jeune. Là. Il a l'air new age. Quand tu le regardes, la manière qu'il bouge, là, ça a l'air d'être... Tu sais, lui, il a compris toutes les dernières tendances dans le monde des arts martiaux. Puis
c'est un gars qui va être top 10 cette année, je pense.
Ça va être dur de ne pas être. Je sais pas, il est-tu matché, là? J'ai pas...
Non, il était supposé de battre contre Mike Dessy, mais il s'est fait mal. Et là, il cherche un combat avec n'importe qui. C'est pour ça que je pense que pour un gars comme Nasrat, lui, il est toujours prêt à se battre. Puis il a pas peur de se battre contre quelqu'un qui est numéro 5 demain. Tu sais, puis quelqu'un comme lui, là, il veut se passer au top 10 facilement dans les 6 prochaines mois.
Ah, c'est un des talents assez incroyables de la division, parce que juste on regarde qu'est-ce qu'il a fait à Mark Jacasey, puis on regarde après qu'est-ce que Mark a fait à Joe Duffy. Puis ouais. C'est assez incroyable de voir comment Nasrat est... Tu sais, il était pas connu, je pense, avant ce combat-là. Il était vraiment under the radar. Puis après le combat, je pense que le monde a mis plus ça sur la faute à Jacasey. Genre, ah non, finalement, c'est pas le prospect qu'on pensait que c'était. Mais finalement, c'est juste Nasrat qui est absolument incroyable. Ouais. Puis je pense qu'on commence à s'en rendre compte là, de plus en plus.
Ouais, même son premier combat qu'il a perdu à l'UFC, il l'a pris en 2 semaines, puis je pense qu'il a bien fait pour quelqu'un qui l'a pris en 2 semaines, tu sais. Non, il est vraiment bon.
C'est Marching Eld en plus, c'est pas n'importe qui, ça non plus, là.
Ouais, puis il a drop, il l'a amené au sol, tu sais. Il jouait un bon game.
Ah, c'était vraiment un excellent combat. Donc, moi, la dernière affaire que je voulais te demander, je ne sais pas si quand je vais sortir le podcast, ça va déjà être arrivé, mais c'est pas grave, vu que j'étais devant moi, je voulais qu'on parle un peu du combat de Rory en fin de semaine. Ouais. Je voulais savoir comment ça avait été le training pour lui, puis à quoi vous vous attendez en termes de performance face à John Fitch, un gars que vous connaissez très bien.
Ouais, je pense que ça va être beaucoup meilleur que le dernier combat. C'est l'entraînement qu'il a fait pour son dernier combat contre Moussassi, comparé à celle-là, c'est une grosse différence en termes de the frequency of his training.
Ouais, il est venu plus souvent.
Ouais, il est venu plus souvent, il s'est entraîné plus fort. Il a fait, il était plus dans le gym, puis il était plus dans sa tête mentalement qu'il doit le gagner ce combat-là. Avec Moussassi, il dit ouais, je veux le gagner le titre. Tu sais, il était pas vraiment investi. Tu sais. Pour ce combat-là, ils veulent pas le perdre. Donc, je suis content avec ça. Et moi, je pense qu'il y a le style de battre John Fitch, you know, 8 fois sur 10. Plus fois sur 10, il bat facilement, je pense.
Ah, John Fitch, c'est un... Tout le monde sait what he's about, là. C'est, ça serait pas... Je pense pas vraiment qu'il y aurait de surprise. Il peut pas arriver avec une nouvelle wrinkle à son game qu'on va être là, oh mon Dieu, John Fitch, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Il est vieux, c'est un lutteur, puis il est encore plus reliant là-dessus qu'avant, encore. Donc,
ouais, oublie pas, un gars comme Damien Maia pouvait pas se mettre Rory. Je pense pas que John Fitch va le faire.
Ça me surprendrait bien gros. Mais... c'est intéressant qu'est-ce que tu dis par rapport au combat d'avant, par exemple, parce que c'est vrai que c'est un super fight, pis ça avait l'air fun. Ah, oh, on fait ça, c'est pour le show, Gegard, Rory, deux gros noms, probablement les deux plus grands noms dans Bellator. Fait que je trouve ça intéressant que tu me dises que dans le fond, pour Rory et tout, c'était peut-être plus genre fun que quelque chose de vraiment très... très sérieux, puis de vie ou de mort, là, dans le fond.
Ah, comme, je veux pas dire qu'il était pas sérieux, mais j'ai pris qu'il était pas autant investi qu'il était avant. Je sais pas, parce que, tu sais, peut-être dans sa tête, on n'a pas parlé de ça, mais peut-être dans sa tête, OK, il y a moins de chances de gagner parce que c'est un gars qui est plus petit, qui monte sur... comme peut-être il se préparait mentalement que, OK, peut-être les chances sont moins bonnes, so, I don't know. Peut-être c'est l'inverse. Peut-être il disait, oh, Moussassi est tellement difficile, facile que je vais le détruire. Je suis pas sûr. J'ai jamais demandé parce que c'est dur à parler des affaires comme ça quand c'est plus mental. Quand c'est quelque chose que, you know what, ça savait pas comment lutter aussi bien qu'on pensait, on peut parler de ça. Mais quand c'est quelque chose dans la tête, c'est dur. Je suis pas le gars à lui demander. Mon frère, c'est le gars à lui demander, tu sais.
Ah, oh, Ferraz, c'est le philosophe, hein? C'est lui qui
a... Ouais, c'est ça. Donc, les affaires comme ça, c'est quand c'est personnel, Ferraz, il s'arrange avec les gars.
Yes, mais ouais, c'est bon à savoir qu'il est motivé pour ce combat-là. Moi, j'ai hâte de voir la suite du tournoi, là. Pour vrai, je trouve que c'est le match-up le moins intriguant qu'il y a au début, mais c'est une bonne manière de mettre l'année en branle puis d'avoir les, d'affronter les match-ups peut-être plus intriguants, là, par la suite. Pas que, après ce que MVP a fait, je pense que qui va vraiment battre Douglas Lima, là. En fait, je m'attends vraiment à avoir Lima McDonald un rematch.
Moi, je parle Lima par le kick.
Ah, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait un Lima McDonald rematch en finale de ce tournoi-là, là. Mais je pense
que c'est ça. Pour moi, c'est ça que je pense qu'il va arriver, mais on ne sait jamais. Tu sais, c'est un tournoi. Les tournois sont fous aussi.
Ouais, c'est clair.
Toujours un résultat qu'on penserait pas.
Ah, oh, comme des séries de la NHL en ce moment.
Il y a aussi un de nos gars qui s'est battu, il a gagné un tournoi pour battre pour le titre pour $1 million.
Ouais, Mansour.
Mansour, ouais, il fait très bien dans ce show-là.
Ouais, est-ce que c'est quand le combat? C'est ça que je veux savoir.
Ah, je sais pas si c'est quand le combat, mais je sais que c'est bientôt. Il poste tout le temps sur Instagram. Je pense qu'il va revenir aussi à Tristar pour faire son camp d'entraînement pour ça. Il a fait tous ses camps d'entraînement pour les autres combats, donc je pense qu'il va continuer à venir ici. Mais lui aussi, c'est un autre prospect. Je pense que s'il gagne le titre, il y a des chances que le UFC va vouloir de le signer.
Probablement. Lui, là, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de combats, mais il n'y a pas tant de... T'sais, c'est pas quelqu'un qui se bat depuis tant longtemps que ça professionnellement. Ouais. Il s'est battu, puis il a une super belle fiche, puis... Personnellement, je suis surpris qu'il soit pas déjà là, mais c'est sûr que c'est la chance d'aller gagner des millions de dollars en dehors de l'UFC.
Ah, c'est fantastique. C'est une bonne opportunité pour lui. Puis après, quand il va se faire signer par UFC, il va payer.
Il y une belle affaire. J'espère qu'on va le voir dans l'UFC. Moi, mais il m'excite vraiment, Marzo, là. J'ai hâte de le voir aller au plus haut sommet du sport. Mais bref, regarde, je te remercie d'avoir pris le temps. Moi, il fallait que j'aille rejoindre Michael Dufort, on s'en va manger.
Ok, c'est cool.
Salut. Bien, je te remercie, puis on se croise à Ottawa. Bonne chance, le combat. On a hâte de voir ça, puis on est tous derrière toi. Ciao.
Merci beaucoup, ciao.
Bye.
Et voilà, c'était l'épisode pour cette semaine. Un gros merci à Elias Theodorou. Thank you very much for taking the time to speak with me. It was real fun. We had a real blast and it was fun. Merci aussi. Un gros, gros, gros merci à mon chum Julien Leblanc qui est venu pour cette entrevue-là, qui a parlé, qui, entre vous et moi, a peut-être un peu été ma plug pour avoir Elias Theodorou. Donc, gros props à mon chum Julien qui est vraiment un good guy puis que j'ai hâte de voir son combat contre Adam Hunter au TKO 48. Et finalement, un énorme merci à Ayman Zahabi d'avoir pris le temps de me parler. C'est une autre entrevue que j'avais hâte de faire depuis longtemps. Ayman est un combattant que j'avais sur ma watchlist depuis longtemps. Là, il est dans l'UFC et il est prêt à faire son grand retour, revenir de cette défaite-là qui, selon lui, a fait du bien. Il lui a fait apprendre beaucoup de choses et lui a permis de remettre les choses en perspective et tout. Donc, j'ai hâte de voir la nouvelle version d'Ayman Zahabi. Et puis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. C'était donc le podcast cette semaine. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Ils sont tous ici dans le cadre de Pink Floyd, comme à l'habitude. Et puis, abonnez-vous au podcast. C'est quelque chose que je pense que ça grandit. Là, semaine en semaine, on a des bons invités, des gars du UFC de plus en plus. J'essaie de vous donner le meilleur du contenu, donc abonnez-vous pour ne jamais manquer un épisode, et puis abonnez-vous sur tous les réseaux sociaux, puis on se voit la prochaine fois, vous savez comment ça marche. Ciao!